bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudaïli.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah,
Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Et nos invités sont Cécile et Bernard Pivot.
Bravo.
Bravo. Bravo. Merci à tous les deux de venir nous parler, nous donner envie, surtout de lire. C'est le propos de cet ouvrage chez Flammarion. Avez-vous hésité avant d'accepter de faire ce livre à quatre mains?
Ben non, j'ai pas hésité, non.
Enfin, on dit pas non à papa.
Non, c'est pas ça. Écrire un livre sur la lecture, les livres, les écrivains. Avec mon père qui reste quand même pour sa Bernard Pivot, non, j'ai pas hésité une seconde.
C'est
un cadeau.
Vous donnez le nom de votre père comme un label, comme une marque. C'est Bernard Pivot,
je suis totalement d'accord avec vous. Ça reste Bernard Pivot pour beaucoup de choses, évidemment.
J'ai entendu, c'est un cadeau, donc vous n'avez pas été payé. C'est le message que vous voulez faire passer.
La famille. Donc, votre idée était de décliner sous différentes thématiques de chapitres, chacun votre idée sans même lire celle de l'autre, c'est ça? Vous avez écrit dans votre coin.
Nos relations avec la lecture et avec le livre, elle comme lectrice amateur et moi comme lecteur professionnel. Et on n'a pas du tout les mêmes relations avec le livre. Du temps d'apostrophe où aujourd'hui je suis au JDD ou à l'Académie Goncourt, quand je lis, c'est toujours avec une finalité. Mm-hmm. C'était pour interviewer des écrivains, maintenant c'est pour écrire un papier dans le JDD ou pour voter pour le Goncourt. Tandis que Cécile, elle lit pour son plaisir.
Simplement
pour son plaisir.
Ça vous manque pas ça de lire pour votre plaisir? Vous vous dites pas j'aimerais bien ne pas juste avoir fait mes devoirs, quoi?
Non, pas du tout, parce que le devoir est très agréable, parce que c'est très agréable d'avoir aimé un livre et puis d'écrire ensuite dessus. Non, au contraire, c'est un prolongement naturel, et de même du temps d'apostrophe, c'est un prolongement naturel de poser des questions et d'éclairer ma lecture du livre par des questions à l'auteur.
Ouais. Et j'imagine que votre plaisir est dans la relecture. Il y a même une thématique qui est consacrée à relire un livre. Est-ce que là, c'est pas par plaisir, uniquement par plaisir?
Je relis un livre sur le moment, parce que parfois on a des passages qu'on n'a pas bien compris, mais je ne relis pas, j'ai pas le temps de relire, moi, dans ma vie, j'ai pas le temps.
Même comme un roman de Daniel Pennac qui est visiblement vous avez en commun dans vos goûts, en tout cas, tous les deux.
Oui, parce que c'est le livre qui a marqué le livre marquant sur la lecture, mais sinon, on n'a pas le temps de relire. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le temps.
Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme tous les grands lecteurs du service public, vous faites faire des fiches, ça se lit plus rapidement?
Ben oui, mais je suis pas très fiche, moi. Voilà.
Si, vous êtes très annotation. Alors là, vous notez. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit, et ce qui est intéressant dans votre mode de lecture, ce sont les positions. Vous n'avez pas l'objet dans les mêmes positions. Cécile, vous êtes plutôt dans la détente.
Ah non, pas vraiment.
Pas du tout.
Vous n'êtes pas assise à un bureau avec un papier et un crayon.
Je suis plutôt sur du dur, quoi. J'aime les chaises.
Oui. Non, mais je parlais du papier et du crayon pour.
Pas de papier. Non, c'est pas un outil de travail pour moi. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin de papier et de crayon. Mais j'aime lire. J'aime pas lire dans un canapé. J'aime pas lire dans un lit.
Dans un train.
J'aime les trains, les avions.
C'est dur, c'est bien.
Debout dans le froid.
Les chaises.
C'est vrai qu'on parle souvent des conditions de création de l'auteur. C'est-à-dire, on a toujours cette petite histoire, un tel écrivait dans son lit, un tel plutôt écrivait en
debout,
déambulant et ensuite noté.
On ne s'est jamais intéressé à la position
du lecteur. Et c'est vrai qu'avec vous...
On s'est aperçu que cette thématique-là nous rapprochait.
Oui, on est très janséniste dans la manière de se conduire, dans le dur, dans le...
Donc vous êtes assis à table, Bernard Pivot, parce qu'il faut trouver non pas une position inconfortable, mais quelque chose qui vous tienne bien.
Pour rester en lien avec
l'auteur, le narrateur.
Oui, mais j'ai toujours été comme ça. Et je me rappelle très bien quand, dans la première année d'apostrophe, j'avais reçu deux Russes très célèbres, Nabokov et Solzhenitsyn. Et à l'époque, il y avait des fauteuils un peu mous, etc. Ils avaient refusé l'un et l'autre de s'asseoir dedans. En disant non, on veut du
trop de confort.
On avait dû changer. Aller chercher des fauteuils où ils étaient avec les fesses.
Vous avez été frappé chez France 3, vous êtes
deux tabourets, s'il vous plaît. La naissance de votre amour de la lecture, on a déjà parlé tous les deux, essentiellement le dictionnaire était le premier livre que vous ayez en main. quelques fables de La Fontaine aussi, et ce sont les deux qui vous ont donné le goût d'aller de l'un vers l'autre. D'ailleurs, même les fables vous poussaient à aller chercher la signification d'un mot.
C'est à cause de la guerre, c'est parce que tout simplement, moi, j'étais dans un petit village du Beaujolais, on n'avait pas de livres. À la bibliothèque, il n'y avait que des livres pour des adultes, et donc le seul livre que j'avais, c'était le Petit Larousse, une vieille édition de Petit Larousse, et puis les fables de La Fontaine.
Oui, mais quel livre formidable, le dictionnaire, c'est génial.
Ben oui, c'est vrai, mais sinon, s'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais fait comme tous les enfants, j'aurais lu des illustrés, des
Et c'est là qu'on passe à Fantomètre. Et moi, je suis tellement heureuse de voir cette citation de Fantomètre.
Ah oui.
Ah ben forcément, parce que Fantomètre, je les ai tous.
Et vous les avez toujours ?
Ah oui, je les ai toujours. Ah oui, ça, je ne donnerai jamais mes Fantomètres.
Non, fais pas ça.
Non. On a essayé de
les soutirer. Non, et en plus, c'est important, Fantomètre, parce que quand... Alors, moi, j'appartiens à cette génération où la littérature jeunesse n'était pas encore très développée. On n'avait pas encore toutes ces belles choses de l'école des loisirs. Aujourd'hui, c'est exceptionnel.
Ouais. Ah oui, c'est exceptionnel.
Donc, à l'époque, on avait quoi ? On avait Fantomètre, on avait le Club des Cinq, on avait les classiques en bibliothèque verte. Je me souviens des Misérables en 3 tomes, un peu expurgés pour faciliter la lecture. Mais c'est vrai que Fantomètre, ça a été une révélation parce que c'était une femme déjà.
C'était une femme.
C'était une jeune fille. On pouvait s'identifier parce que le club
était très jolie.
Elle était jolie, elle était maligne.
Elle était ravissante.
Et puis elle se déguisait. Elle était brune.
Elle était,
les deux copines qui se sont retrouvées sur Fantomètre.
Non, c'est vrai. Elle était super jolie. Puis elle avait un côté garçon manqué.
C'est ça.
Et des fois, elle était très féminine. Ouais, elle avait les deux. Et c'est vrai, quand on était brune, comme vous et moi, on disait qu'on allait ressembler à Fantomètre.
Parce que
alors qu'Alice, j'ai jamais eu ce problème-là. Voilà. Elle était blonde, aux yeux bleus.
Non, mais c'est vrai.
Très insipide.
Aucune chance. Mais,
les
mais
malheurs de
beaucoup,
Sophie,
mais,
c'était
mais...
des petites blondes.
Oui,
alors c'est vrai que Fantomètre, tout d'un coup, on se dit, tiens...
Et votre rapport à Fantomètre, Bernard?
Pardon, et moi, ce que j'ai
assez distant. C'est la cagoule qui vous gêne.
Fantomètre, c'est le côté baba cool, en fait.
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est quelques illustrations. Alors, c'est les fauteuils orange avec les grosses fleurs. Enfin, c'est très années 70. Elle a des pantalons pas de def.
Bon, on va vous laisser toutes les deux pour parler de Fantomètre.
Voilà.
C'est quand même un classique, un Fantomètre de Victor Hugo.
Cécile, vous aviez l'air surprise que Leïla ait gardé toutes ses Fantomètres.
Oui, parce que moi, je jette beaucoup. Bibliothèque rose, bibliothèque verte, j'ai tout balancé.
Même pas pour vos enfants ?
J'ai tout balancé.
Ça se garde, ça se transmet. Ça...
Non, mais j'ai une vraie maladie avec le fait de jeter les choses. Hein. Donc,
vous voulez pas lâcher Daniel deux secondes
parce que c'est les livres.
Elle n'a pas jeté son père.
Hein. Non, voilà, c'est un...
D'accord.
Voilà.
Y compris dans votre manière de ranger les livres, tous les deux, vous n'avez pas la même.
Mais non, parce que
la même façon de faire. Et vous, dans ce que vous expliquez, vous m'avez donné une très très bonne idée. Je sens que je vais faire comme vous.
Mais je sais pas parce que moi.
Expliquer, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que moi, c'est pas mon outil de travail. Mon père, c'est son outil de travail, donc il va l'expliquer. Ils rangent par ordre alphabétique. Tandis que moi, je les range par éditeur.
C'est joli.
Parce que je trouve en effet que le livre, c'est le plus bel objet de déco qui soit. Donc, et je pense en plus que j'ai une mémoire visuelle. C'est vrai que je me souviens très bien de qui sont, enfin, chez quels éditeurs sont les auteurs. Je me souviens bien des logos.
Donc la tranche.
Donc il y a toutes les tranches. Vous avez tous les Gallimard.
C'est magnifique.
Tous les Grasset. Ouais. Voilà, de la Pléiade. Bon, j'en ai pas 15 000 de la Pléiade. Mais donc voilà, ça fait des. Évidemment,
les
ça fait
des
murs magnifiques. Et je m'en étais aperçue. Il y a très longtemps, j'étais allée aux éditions de l'Olivier. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais aux éditions de l'Olivier, vous arriviez et vous aviez tous les livres dans l'entrée des éditions de l'Olivier. Et c'était magnifique, vraiment magnifique. Et en fait, c'est comme ça, je crois, que j'ai eu l'idée. Mais il y a très longtemps. Mais de temps en temps, les éditions de l'Olivier, ils sortent un livre. Mais je sais pas pourquoi ils font ça l'Olivier.
C'est ça.
Pourquoi.
Cécile, je vous rejoins à 400%. Je range par édition. Et ce qui me rend malade, c'est que dès qu'il y a la tranche est un petit peu différente, ça me ruine tout.
Ça ruine tout.
Et je suis obligée de refaire tout l'appart.
Voilà, non, je les mets de côté, ceux qui n'ont pas l'Olivier.
On va inviter un psy pour en parler, parce que je pense qu'il y a un problème psychanalytique.
Les auteurs qui changent de maison d'édition. Ça, c'est pas possible.
Après les poches. Poche, donc c'est là on se dit qu'est-ce qu'on fait, on l'achète en première édition ou après en poche, parce qu'après on peut vraiment les ranger ensemble.
Si nous rentrions un tout petit peu dans les livres, parce qu'on s'arrête un peu à la couverture, rentrons dans le propos et dans le sujet.
Vous êtes marque-page, Bernard ?
Pourquoi ? il le dit, il y a des explications aussi qui sont faites sur les marque-pages ou non, ou corner ou non les pages des livres, les respecter ou pas, annoter dessus ou non, les offrir ou non.
On peut rentrer à l'intérieur du sujet ?
On peut rentrer, rentrons. Pourquoi lire ? Pour
C'est bizarre la lecture parce que c'est un acte à la fois égoïste et altruiste. C'est-à-dire égoïste parce que vous vous retirez du monde, vous faites silence, vous vous isolez, vous coupez de la famille, vous coupez de tout le monde. Et, puis vous, d'un seul coup, vous vous plongez dans votre propre plaisir à lire, etc. Et en même temps, c'est altruiste puisque vous intéressez aux autres. Vous vous intéressez aux idées des autres, aux personnages, à des sociétés, à des civilisations, à des histoires, à des personnages historiques. Donc, vous allez vers les autres. Donc, vous coupez du monde et en même temps, vous entrez dans un autre monde. Ce mouvement de va-et-vient est la raison même de la lecture.
Cécile, vous vous dites que c'est carrément un voyage, quoi. Vous partez
loin. Bien sûr que c'est un voyage. Oui, je trouve que ça... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir appris à vivre dans les livres, absolument, oui. Vraiment. J'ai trouvé que le livre était, pour moi, salvateur.
Il y a un côté voyeuriste aussi de la vie des autres qui se raconte, de l'intimité dans laquelle on rentre.
Et puis ça nous permet de nous, soi-même, d'apprendre plein de choses sur soi déjà, de se poser des questions. Pourquoi on rigole? Pourquoi on est ému par tel personnage? Pourquoi un autre nous fait rire? On se pose énormément de questions sur la vie, sur les autres, grâce au livre, oui.
Et alors, comment décider de lire un livre? Comment le choisir? Sur recommandation, c'est un cadeau fait par un ami. Ce sont les critiques, par exemple, vous. Qu'est-ce qui vous pousse pour le plaisir à choisir un livre? Est-ce qu'il y a des libraires qui ferment malheureusement, je suis tentée par énormément de choses,
donc c'est pour ça que je suis un petit peu envahie par les livres. Mais ça peut être en effet, c'est les hebdomadaires, c'est les quotidiens, c'est une émission de radio, c'est une émission de télé, c'est, je vais lire un livre et l'auteur va en citer deux autres, donc je vais acheter les livres qu'il cite. La tentation, elle est immense.
C'est ce que vous faites tous les deux, c'est qu'on a envie de lire les livres que vous citez.
Oui, on a envie, j'espère qu'on donne envie de lire, absolument.
Totalement.
Ah ben, le livre est fait pour donner envie de lire, évidemment. Sinon, ça sert à rien.
Et alors, comment vous, Bernard, vous choisissiez vos livres? Il y a une expression que vous employez que je ne connaissais pas, qui est peut-être connue dans le milieu du journalisme. Vous dites je casse un livre, c'est-à-dire vous l'ouvrez, vous allez au milieu, n'importe quelle page, et vous lisez quelques lignes pour voir si vous allez le lire ou pas.
Non, mais vous comprenez,
comme un prélèvement.
C'est vrai que tu fais ça.
Non, mais c'est un privilège. Moi, je reçois les livres à domicile. J'ouvre moi-même les paquets.
Ça s'appelle Amazon, Bernard, mais c'est pas grave.
Non, pas du tout. Ce sont les coursiers, ce sont les facteurs, etc. qui m'apportent. Non, Amazon, je déteste. Je déteste absolument.
Bernard, ce n'était qu'une vanne.
C'est pas grave, Bernard.
Non, je voudrais pas que le lecteur croie que je suis un séide d'Amazon.
Surtout, il ne faudrait pas penser que j'en achète. S'il vous plaît. Je les reçois, ce sont les maisons d'édition, et vous les empilez dans l'entrée. Il y a des colonnes de livres.
Il y a plein de piles, les piles de livres que je lis tout de suite, que je vais lire, que je lirai peut-être, et puis le livre que je ne lirai jamais. Voilà, donc ça fait des piles.
Mais que vous gardez quand même.
Oui, non, après les noms, il y a des gens qui viennent chez moi qui en prennent.
Cécile vient pour faire des tri.
Et deux fois par an, je donne des livres dans les prisons, puis surtout dans la bibliothèque de Quincy en Beaujolais, mon village, où j'ai appris à lire à l'école communale. Et donc là, depuis 40 ans, je donne
des livres. Vous
les fournissez. Il y a plus qu'un Larousse maintenant. Génial. Bonne nouvelle.
Et alors, donc, ce côté, je prends un échantillon, une page au hasard comme ça, au milieu. Si je vois que le style, le phrasé, le voyage, justement, vaut la peine. À ce moment-là, vous lisez le livre depuis le début.
Oui.
Quand vous ne connaissez pas l'auteur, toujours, par exemple, quand vous ne savez pas...
Non, mais c'est
une nouvelle plume.
Une meule de gruyère, vous en retirez un tout petit peu, vous goûtez, vous dites, tiens, c'est pas mal, c'est bon, c'est pas terrible, donc voilà.
C'est ce que font beaucoup de gens dans les librairies, quand on voit les gens, voilà.
C'est ce que fait Cécile.
Voilà, ils ouvrent et on les voit lire, parfois on voit des gens, on se dit, tiens, ils sont installés là, ils lisent, quasiment presque assis, parfois quand il y a de la place.
Et non, ils goûtent le fromage.
Ils feuillettent et après ils partent et ils se disent, voilà, ça y est, j'ai trouvé l'objet qui va occuper mon après-midi ou mon week-end. Et je trouve que ça, c'est l'activité la plus joyeuse. Après la lecture, bien sûr, c'est le choix du bouquin. Se dire, tiens, rêver, saliver à l'auteur qu'on va rencontrer, l'histoire dans laquelle on va être plongé.
Je suis d'accord, aller dans une librairie, j'écris que c'est mieux qu'une séance de yoga. En tout cas, c'est aussi bien.
Ouais.
Ah oui,
Et quand on parlait de l'isolement, justement, Cécile, est-ce que vous avez le sentiment que la lecture, le travail de votre papa vous a un tout petit peu coupé ou privé de quelques moments de partage dans l'adolescence? Oui. Ou dans la petite enfance?
Oui, beaucoup.
Donc c'est la lecture. Vous pourriez en vouloir, la lecture, de vous avoir piqué votre papa?
Oui, j'aurais pu en vouloir à la lecture, à mon père. Mon père, j'en ai voulu quand même, hein. Non, pas du tout. Je me suis jamais, j'ai jamais pensé à me révolter contre la lecture. Non, mais jamais.
Je cherchais pas.
Et pourtant,
à vous révolter,
j'ai vraiment passé mon adolescence. J'ai trouvé comment embêter mes parents, mais alors, franchement, j'ai passé 5 ans à ça, mais la lecture, je n'y ai jamais pensé. Alors que, évidemment, j'aurais arrêté de lire, là, je les aurais embêtés. Mais non, j'aurais pas pu arrêter de lire. Ça a vraiment été pour moi salvateur.
Et à l'inverse, vis-à-vis de vos enfants, vous ne vous êtes pas dit, lire peut aussi me priver de certains moments avec mes enfants ?
Non. Je me suis pas dit ça, pas du tout. Non, j'avais vraiment besoin de. Non, au contraire, j'aurais même menti à mes enfants. Je sortais du travail et je leur disais j'ai encore un peu de travail, je rentre un peu tard et en fait j'allais au bistrot et j'allais lire quelques pages. ça m'arrivait des dizaines de fois parce que j'avais pas. Enfin voilà, parce que j'étais fatiguée, parce que passer du bureau à chez vous, vous arrivez chez vous et puis quand est-ce qu'on mange.
Il fallait un sas de décompression.
Ah, ouais.
Je découvre
et
sur le tard.
C'est le meilleur sas de décompression qui soit. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous découvrez, Bernard?
Sur le tard que ma fille a préféré être une bonne lectrice plutôt qu'être une bonne mère.
Ah non, oh non, dis pas ça.
C'est pas incompatible.
C'est pas du tout
incompatible.
Très bonne mère. Et d'ailleurs, elle a fait un roman où elle explique.
Pas un roman, non.
Un récit.
C'est sain de faire ça, de se dire à un moment que ce soit de la lecture ou de se dire je me garde 10 minutes pour souffler, passer un coup de fil à quelqu'un que j'aime beaucoup avant de rentrer à la maison. C'est pas en concurrence avec l'amour qu'on a pour ses enfants.
Ça, c'est appeler son amant avant de retrouver son mari. C'est la même chose.
Et justement, tiens, puisque j'ai commis cette boulette entre roman et récit, vous êtes sur le style, tous les deux, vous êtes d'accord pour dire le roman avant tout.
Ah oui, parce que le roman, c'est quand même le domaine par essence de la littérature. C'est pas plus que la poésie, plus que l'histoire, plus que le roman est quand même. Regardez, les prix littéraires, ils vont d'abord au roman, le Goncourt, l'Interallié, le Renaudot, tout ça. Et les prix du printemps.
Il y a des nouvelles maintenant aussi.
Les prix des. Ouais. Le prix France Inter, le prix France Culture, etc. Donc tout ça, ce sont des romans. Non, le roman est le domaine majeur dans lequel s'exerce le plaisir de la lecture.
Le prix France Télévisions aussi qui a salué un roman, Le Bon Cœur de Michel Bernard sur l'itinéraire de Jeanne d'Arc, qui est un sujet rebattu mais qui parient à nous entraîner captiver, avec une habileté, une aisance assez étonnante. Ouais.
Et vous serez captivé par Lire, c'est chez Flammarion. Cécile et Bernard Pivot, j'ai beaucoup appris sur vous. Vous savez à quel point je vous admire, je vous adore, mais il y a encore des choses qui se révèlent et qui ne rajoute que plus de tendresse à vous accueillir ici. Mais c'est sincère, Bernard, c'est sincère. J'espère, Tom Villa, que vous avez bien compris pourquoi Cécile et Bernard Pivot étaient nos invités aujourd'hui.
Oui. Si c'est une blague, elle n'est pas très drôle. D'accord. Je vous le dis.
Il n'y a pas de blague ici.
Alors, regardez le tour de table. Leïla, ancienne prof de lettres classiques. Cécile Pivot, journaliste et auteur. Bernard Pivot. Voilà, j'ai l'impression d'être au jury du bac français, mais j'ai pas eu le temps de réviser. Non, après, ça me rassure de voir Daniel Morin, parce que je me dis, du coup, que redoubler, c'est pas si grave que ça. Mais, en tout cas, Cécile, Bernard, je suis ravi d'être en face de vous. Alors, je cache pas que je suis content qu'on fasse de la radio, parce que si ma chronique est à l'oral, c'est bien, parce que si vous deviez la lire, à mon avis, il y aurait un petit saignement de nez, et à mon avis, j'aurais pas la moyenne. Non, mais voilà, je vous le dis, Bernard, il n'y a pas de souci. En grammaire, je suis pas très fort, j'assume. En conjugaison non plus, remarquez. Puis en orthographe, c'est pas terrible non plus. Même le mot orthographe, je sais pas bien l'écrire. Donc voilà. À côté, le bloc de Morandini, c'est le petit Larousse. Voilà, on va pas se mentir. C'est un handicap. Par exemple, moi, je vous le dis, dès que j'écris un mail important, je l'envoie à ma mère avant pour qu'elle me corrige les fautes. Voilà.
C'est mignon.
Elle me répond, c'est bien, t'as fait que 28 fautes. Le plus chiant, c'est pour les messages un peu perso. Non, le vrai, c'est 2T. Donc voilà, merci maman.
Et
c'était pour les animaux. C'était à la chasse avec mon père. Et le pire, c'est que je sais exactement pourquoi je ne m'améliore pas assez en français. C'est parce que je ne lis pas assez. Enfin, si je lis sur Twitter, mais du coup, limite, ça aggrave mon cas. Et vous l'avez dit, Bernard, les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Ça me fait plaisir. Merci. Alors ça c'est vrai, par contre je connais plein de gens qui lisent énormément, mais uniquement des sites complotistes, donc je sais pas si votre théorie s'applique. C'est pour ça que vous sortez votre livre qui s'appelle Lire, voilà, c'est bien, vous foutez pas la pression aux gens, lire avec un point d'exclamation, il y a un petit côté... Maniez-vous le cul. Mais moi, je suis nostalgique d'un truc. Parce que les vraies émissions populaires qui mettent en avant des livres, il n'y en a plus tant que ça. Aujourd'hui, ça serait quoi? On va dire, allez, on n'est pas couché. Mais moi, je suis assez basique dans la vie. J'écoute toujours ce qu'on me dit. Et comme Christine Angot dit qu'un livre sur deux, c'est nul et le reste, c'est de la merde, je l'écoute. Mais c'est vrai, à l'époque d'Apostrophe, nous manque à tous. Apostrophe, à l'époque, les invités, c'était incroyable. Nabokov, ouais. Simenon, Brassens, Truffaut, Giscard d'Estaing, pendant son mandat, et qu'il était encore solide. À l'époque, tout le monde personne fumait sur le plateau, c'était le bordel, il y avait de la fumée partout, on aurait dit un hammam.
Buvez.
T'es qui, toi, t'es Claude François? Ah non, pardon, c'est François Sagan, autant pour moi. Non, mais c'est...
Avec le nuage.
Mais oui, il se passait quelque chose à cette époque-là. C'était l'époque où Gainsbourg brûlait des billets de 500, Charles Bukowski arrivait bourré, Balavoine engueulait Mitterrand en direct. Vous imaginez aujourd'hui, je sais pas, Kenji engueulait le président Macron. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes qui veulent vivre dans une caravane? Bah, comme tous les autres présidents, les dégager, pourquoi? Donc voilà, Bernard Pivot, homme moderne. On est amis sur Facebook, Bernard, c'est vous qui m'avez ajouté, j'étais flatté. Bon, par contre, j'ai un doute parce que vous m'avez envoyé un petit message la semaine dernière, vous m'avez dit comment ça va, comment avec un K et ça va, S-A-V-A, donc je...
C'est peut-être un fake, ouais.
Et quand c'est un mec nul en orthographe qui repère des fautes d'orthographe, c'est la honte. Après, je me suis douté que c'était pas vous parce que vous m'avez proposé de m'offrir le dernier iPhone 10, mais pour le gagner, il fallait que j'appelle 25 fois un numéro surtaxé et que j'envoie un Western Union de 2000 euros. Alors, par contre, vous êtes vraiment sur Twitter, Bernard.
Ouais,
et
d'ailleurs,
ça, il y a Twitter qui a failli suspendre son compte il n'y a pas longtemps. Ils ont failli suspendre son compte à Bernard parce qu'ils ont décelé une activité inhabituelle. En effet, Twitter, vous tweetez le matin et sans faute d'orthographe. Et ça, Twitter, ils n'aiment pas du tout. Vous n'avez pas compris le principe de Twitter, Bernard. Vous pourriez faire un effort pour la communauté. Vous savez quoi? Je vais vous prendre sous mon aile et avec Daniel Morin, on va vous coacher. Moi, je m'occuperai de faire des fautes d'orthographe et Daniel, il insultera des stars qui n'ont rien demandé et vous allez voir, ça va cartonner. Bonne émission à tous.
Merci, Tommy. La bande originale,
Nagui, sur France Inter.
Le dernier tweet que vous ayez adressé, quand un président à vie, le chinois Xi Jinping, rencontre un autre dictateur à vie, le coréen Kim Jong-un, que se souhaite-t-il? Une bonne santé.
Voilà. Mais petite parenthèse, vous avez 1 million de followers et un détail, là maintenant on a droit à 280 caractères au lieu de 140 avant. Est-ce que ça a grossi vos messages?
Non, pas du tout, je reste à 140.
Vous restez à 140.
Parce que c'est un exercice de style qui est plus intéressant que... 280, c'est la logorée déjà. C'est trop, beaucoup trop.
C'est de l'énurésie verbale, quoi.
D'ailleurs, je trouve maintenant que les messages deviennent de plus en plus longs sur Twitter. C'est de plus en plus long, c'est la barbe.
Vous aimez cet exercice des pensées, comme Jules Renard... Oui.
Ce que j'aime beaucoup, oui, c'est ça, évidemment, La Rochefoucauld, Rivarol, Jules Renard, mais surtout ce que j'aime bien dans Twitter, c'est l'économie des mots qui est le contraire de la philosophie d'aujourd'hui où on est dans l'abondance, le superflu, l'excès, en tout.
Surtout l'économie des mots.
Non, économiser les mots, économiser les signes, etc. Et je trouve que aller à l'encontre du monde d'aujourd'hui, c'est un travail intéressant.
C'est que surtout, ça nous pousse à bien les choisir.
Évidemment, faut bien choisir,
le sens peut
en soit efficace.
Ouais. Lire le point d'exclamation, mais c'est pas un ordre qu'il nous donne, c'est un cri de plaisir qu'il dise. Et comme tu l'as dit, ça permet d'apprendre de l'orthographe et d'être moins con, parce que vous ouvrez le livre d'ailleurs en disant, on me disait, vous pensez que c'est vraiment, vous arrivez à remarquer entre deux personnes qui vous parlent dans la vie de tous les jours, quel est celui qui est le lecteur des deux.
Et puis il y a des exceptions, évidemment. Mais en règle générale, celui qui lit ou celle qui lit accumule ce qu'on appelle la culture générale. Donc se frotte à des idées, à des personnages, à des civilisations, à des mentalités qu'il ne rencontre pas dans sa famille ou dans son milieu professionnel. Il ouvre son esprit. C'est évident. Je veux dire, c'est pas possible autrement.
Mais ça marche pas à chaque fois.
Et ça modifie votre sensibilité.
Cécile,
je vois très bien tout ce que les livres lui a apporté une ouverture sur... on vit dans... Elle, comme nous tous, on vit quand même dans un milieu rétréci. Alors, peut-être pas quand on est comme vous à la télévision, vous rencontrez beaucoup de gens, mais on a la famille, les relations professionnelles, quelques amis, ça fait pas beaucoup de monde. Et quand vous lisez des livres, vous élargissez votre cercle d'amis, vos relations,
votre carnet d'adresses.
Votre carnet d'adresses, etc. Et je trouve que Cécile... Sa sensibilité s'est enrichie au fil de ses lectures.
C'est d'où l'intérêt de ce binôme, d'avoir le côté amateur au sens amour du terme, et le côté professionnel qui n'enlève pas l'amour, mais qui vous oblige à une rigueur et un rythme de travail différent. C'est chez Flammarion.
Oui.
Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous a dit que Cécile et Bernard Pivot venaient aujourd'hui.
Et quand je pense à vous, Cécile et Bernard, je pense évidemment à votre amour des mots, mais aussi... À votre amour en particulier, Bernard Pivot, de la télévision. Nous sommes en 1967 et c'est une de vos premières interventions télé, Bernard.
On dit que si monsieur et madame Johnny Hallyday se sont réconciliés, c'est grâce à Gilbert Cesbron. Voici l'explication. Cesbron a publié un roman, c'est Mozart qu'on assassine, dans lequel il traite du douloureux problème des enfants de parents divorcés, de ces Mozart assassinés par la désunion de leurs parents. Or, il paraîtrait que Sylvie aurait lu ces Mozart qu'on assassine, et très ému, très touché, serrant contre son cœur son enfant, elle se serait écriée « Mais c'est David qu'on assassine !» Et c'est ainsi qu'elle aurait fait la paix avec Johnny.
Vous êtes tout jeune critique littéraire, et à la télé, vous expliquez déjà avec une forme d'humour à quel point la littérature peut changer la vie de chacun. Alors on reparlera évidemment d'apostrophe, de brouillon, enfin pas de brouillon de culture, de bouillon de culture, dans la bande originale de votre vie.
J'explique que le lapsus, c'était une chronique qu'on avait dans l'émission, qu'on appelait, et que Leïla incarnait, qu'on appelait
brouillon
de culture. C'est pas
en référence forcément, voilà. En hommage, évidemment. Mais forcément moins bien parce qu'on n'est pas
voilà.
Mais moi je me demandais quel rapport vous entreteniez alors à la télévision. Est-ce que c'était le média qui vous intéressait le plus pour transmettre cet amour des livres? Pourquoi la télé? Pourquoi pas à l'époque?
Je suis d'abord un journaliste de la presse écrite. J'ai fait 15 ans au Figaro littéraire.
Bien sûr,
et puis simplement on est venu me demander de faire une émission littéraire.
Pourquoi pas la radio? Pourquoi
j'ai fait la radio à France Culture au départ, sur des radios concurrentes de France Inter. Donc mais il se trouve qu'on est venu me demander, Jacqueline Baudrier m'a offert de faire une émission littéraire, donc je l'ai faite. Et en sachant pas du tout si je réussirais ou pas, si j'étais fait pour la télévision ou pas. D'ailleurs, il y a une chose célèbre, c'est une chose un peu connue que j'ai racontée, c'est que ma première émission en direct, sans préparation, c'est incroyable, on m'a balancé en direct comme ça. Comme on me balancerait dans l'eau en me disant « apprends à nager maintenant ». Et le lendemain, Jacqueline Baudrier m'a appelé à la première émission. Elle m'a dit « écoutez, voilà, je vais vous dire trois choses. La première, c'est que l'émission n'était pas bonne, c'était normal parce que c'est la première. Deuxièmement, ne remettez jamais cette veste parce que vous ressemblez à un garçon de café. Et enfin, troisièmement, je peux vous assurer que vous êtes fait pour la télévision ». Voilà ce qu'elle m'a dit le lendemain. Voilà.
Et quel public rencontrait ces émissions? Parce que on parle beaucoup d'audience aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'absence d'émissions littéraires ou culturel sur le service public.
Il y a la grande librairie, il faut
le citer. Non, voilà, c'est ça. Mais voilà, sur France 2, par exemple, il y a Stupéfiant, par exemple, aujourd'hui. Que représentait l'audience des émissions que vous incarniez à l'époque?
C'était considérable, parce qu'il n'y avait pas...
Il
y avait encore 4 chaînes. Donc, à l'époque, c'était entre 1 et 3 millions de téléspectateurs. Pour Apostrophe, ça dépend des sujets. Il y avait des sujets, évidemment, plus pointus, plus aigus, qui rassemblaient moins de monde que des grands sujets, par exemple les romans, etc.
Et vous n'aviez pas d'indication de la chaîne sur les thématiques à aborder, justement, pour rassembler le plus de téléspectateurs possible.
La
belle époque.
Mais là, j'ai fait ces émissions-là dans une liberté totale. Il n'y avait pas la pression de l'audimat tous les matins, vous dire, oh là, vous avez baissé, vous avez grimpé. Ça n'existait pas.
C'est un espace de liberté.
Je croisais un des patrons de la chaîne qui me disait, ah, dis donc, t'as fait une bonne audience. On ne connaissait pas l'audience. Rappelez-vous, une époque, je ne sais pas si vous en souvenez, il était interdit de publier dans la presse les audiences des émissions. C'est incroyable. Mais pourquoi, j'en sais rien. Donc on n'avait pas les audiences. Et simplement, Marcel Gillon me disait « Ah, c'était pas mal ton émission l'autre jour. Ouais, t'as fait du public, hein. C'est tout. »
Il y a une période où les patrons avaient les audiences, mais pas les animateurs.
Absolument.
Personne. Pas de contraintes, jamais.
Jamais.
Choix absolu. Tous les invités que vous avez réussi à avoir sur votre plateau, comment est-ce que vous y preniez?
En leur demandant, tout simplement.
Poliment.
Mais quand on a un Bukowski,
dès que j'ai commencé Apostrophe, j'ai eu François Mitterrand, Nabokov, Solzhenitsyn. Du coup, ça amorce la pompe. Hein, se dire, ah bon, s'il a obtenu ces gens-là, après, c'est plus facile d'avoir Albert Cohen, Yourcenar, Simenon et compagnie.
Je pense que les éditeurs se rendaient compte qu'après un passage chez vous, il y avait une prescription qui se faisait.
Chez tous les libraires, il y avait une table avec les livres d'Apostrophe. La semaine précédente, la semaine du moment, et après la semaine suivante. C'était assez, assez étonnant.
Et vous, Cécile, quel regard vous portiez sur Bernard Pivot, sur votre papa à la télévision? J'imagine que vous avez pu suivre.
À la télévision, moi, c'était normal que mon père soit à la télé tous les vendredis, donc des fois, j'oubliais qu'on était vendredi, en effet. Et je passais devant la télé, je le voyais... derrière l'écran,
c'était en direct.
Ah, mais oui, c'est vrai, on est vendredi.
C'était en direct,
voilà.
Donc forcément, il n'était pas à la maison.
Non,
il était à la télé.
Vous suiviez, vous...
Je suivais, oui. Il y en a que je regardais, il y en a que je regardais pas. Ça dépendait. J'avais aucune pression, ni de la part de ma mère, ni de la part de mon père, pour dire, ce soir, c'est Apostrophe, tu regardes. Non, pas du tout.
Et comment c'est vous chagrin, Bernard Pivot, de voir que votre fille vous résume vraiment une fonction de calendrier?
Oui,
mais... il y a papa, c'est vendredi.
Oui, mais je trouve que nous sommes tous des agendas.
Et comment
comment... c'est un joli titre.
Et comment on vit sa scolarité quand on est Cécile Pivot?
On vit sa scolarité, je dirais, comme tous les... C'est particulier,
voilà. Dictée, enfin, on doit la vivre
comme tous les enfants qui ont des parents.
La dictée, on doit la vivre différemment.
Des parents un peu célèbres. après, oui, vous arrivez, évidemment, vous êtes bon en français, ce qui est stupide d'ailleurs. Bah ouais. Moi, c'est vrai que j'étais bonne en français, mais voyez bien que tous les instituteurs posent sur vous un regard particulier, ouais. Bien entendu. Alors, je me dis toujours je pense que tout le long de ma scolarité, je pense qu'il y en a deux ou trois qui ont dû envoyer un manuscrit à mon père et qu'il n'a jamais regardé. Parce qu'il y en a vraiment deux ou trois qui m'ont détesté dès le premier jour. Alors, j'étais pas bonne élève, mais il n'y avait aucune raison qu'on me déteste comme ça dès le premier jour, quand même. Et je me suis toujours dit, lui, il a dû, c'est pas possible, quoi.
Ouais, il a vécu un moment douloureux.
Ou alors, il y en a évidemment qui vous aiment plus, parce que vous êtes la fille de Bernard Pivot, il n'y a aucune raison non plus, voilà.
Vous êtes beaucoup posé la question sur le choix de la musique, Rachmaninov.
Non, c'est un hasard aussi.
Ah bon?
Ah oui, c'est un hasard. C'est dans mes
cadeaux. C'est culte, quoi.
En 74, le cadeau de Noël, parce que ça a commencé en janvier 75, dans mes cadeaux, il y avait des 33 tours des deux concertos de Rachmaninov. Je les ai écoutés, et puis le réalisateur m'a dit, il faut qu'on trouve une musique, 30 secondes, etc. Et à un moment, j'entends le concerto numéro 1 de Rachmaninov, qui n'est pas le plus connu, et d'un seul coup, j'ai entendu ce piano, et je me suis dit, tiens, ça, c'est apostrophe. C'est apostrophe parce que c'est une petite conversation comme ça qui part, et puis en même temps, on sent que ça amorce quand même un débat, quelque chose qui va s'amplifier, qui va prendre du volume, etc. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai appelé le réalisateur, écoute ça. Il m'a dit, formidable, très bien.
Et pourquoi ce signe de apostrophe? Pourquoi pas guillemets, point d'exclamation?
Non, mais des deux sens, parce que l'apostrophe est un signe de ponctuation, enfin, je veux dire, un signe de typographique, pardon.
Et on interpelle quelqu'un.
Et puis, apostrophe, c'est aussi s'interpeller. Donc, il y avait les deux sens, la parole et l'écrit.
Lire Cécile et Bernard Pivot chez Flammarion vous donnera envie de lire. Et puis, il y a toute une liste comme ça de romans
aussi.
Et de livres et de très belles photos. Ouais. Qui donne envie d'ouvrir un livre. On parlera après de l'odeur aussi, parce qu'il y a un parfum aussi quand on prend un livre. L'idée du cadeau, c'est une vraie démarche d'offrir un livre à un ami, c'est quelque chose de particulier. Mais d'abord, voici l'humeur de Marina Rollman. Mais oui, évidemment, quoi d'autre?
Bonjour les amis. Alors récemment, j'ai croisé dans le train un couple d'Instagrammeurs. Instagrammeur, qu'est-ce que c'est? C'est un métier dont on peut bien vivre, mais que je ne saurais expliquer à ma grand-mère, un petit peu comme le rôle de Tom dans cette émission. Mais plus concrètement, ce sont des gens qui prennent des photos d'eux-mêmes et de leur quotidien tellement jolies qu'ils arrivent à en vivre. Et c'est un boulot de dingue d'avoir un vrai beau compte Instagram. Il suffit pas d'être vaguement photogénique. Par comparaison, les auditeurs pourront aller voir le compte Instagram de Nagui, qui a beau toutes les semaines recevoir les plus beaux comédiens, les plus incroyables chanteuses, les auteurs les plus élégants. À chaque fois qu'il poste une photo, on sait jamais si c'est un musée Tussaud macédonien ou des sosies de Balmusel. Toujours mal éclairé, je sais pas ce qui se passe.
Mais c'est à France Inter, c'est
bien sûr. Remettons ça sur France Inter. Donc, Instagrammeur, c'est un vrai boulot et c'est un boulot qui peut rapporter. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, Linda Evangelista, parlant d'elle-même et de ses collègues top modèles de l'époque, avait dit : on ne se lève pas à moins de 10 000 dollars la journée. Ce qui doit faire regretter à Nicolas Demorand de ne pas avoir mieux pris soin de sa peau. Mais donc, 10 000 dollars pour se lever il y a 30 ans et aujourd'hui. Et si elle est bien cadrée, une photo même prise depuis son lit, elle peut rapporter à un Instagrammeur la même somme. Et c'est là qu'on constate que les millénaires pendant lesquels on s'est posé la question de l'alchimie, comment changer le plomb en or, en fait c'était une métaphore. La vraie question c'était comment changer l'anodin en extraordinaire, comment faire de la photo d'un toast un gagne-pain. Et la formule c'est un filtre Instagram. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais alors la question c'est jusqu'où on doit mettre sa vie en scène. Le couple à côté duquel je me trouvais dans le TGV, j'arrivais à voir ce qu'ils mettaient sur Instagram et non seulement les photos étaient canons, mais effectivement, vu à travers les photos, le voyage avait l'air génial. Il y avait un côté intime comme ça, instant volé, romance, hashtag week-end en amoureux, hashtag viennoiserie, hashtag best girlfriend ever. Mais sauf que moi, je les ai vus dans la vraie vie. Ils ont rien kiffé du tout. Ils ont pris le croissant en photo, le livre en photo, le baiser en photo, mais ils n'ont pas vraiment mangé. Ils n'ont pas vraiment lu. Ils n'ont pas vraiment passé du temps ensemble. Les 3 heures de trajet, ça a été photo, retouche, post, ajouter des émojis, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression de me répéter, mais ils n'ont même pas mangé leur croissant. Ça veut dire que leur vie, ils la passent à mettre en scène leur bonheur. Mais alors, quand est-ce qu'ils sont vraiment heureux? C'est une vraie question.
Ouais.
Et en même temps, parfois, la vie, c'est surfait. Moi, j'ai une amie, son voyage de noces, elle avait tout planifié au millimètre. Résultat, il y avait des cheveux dans la douche, dans sa chambre, la météo était bof, la nourriture pareil. Elle me l'a dit. Elle a pris plus de plaisir à imaginer sa lune de miel qu'à la vivre. Donc peut-être que créer, c'est plus chouette que de vivre. Et puis peut-être même que la mise en scène du bonheur, ça finit par se confondre avec le bonheur lui-même. Tu vois, tu aspires à quelque chose, tu le mets en scène et paf, prophétie autoréalisatrice, ça arrive. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que ça marche vraiment, cette histoire d'autosuggestion. Par exemple, les Américains, ils disent, habille-toi pour le job que tu veux, pas pour celui que tu as. Bon bah si on s'en tient aux fringues autour de la table, manifestement, plutôt que de bosser en radio, Nagui préférerait être dresseur d'iguane au Cirque du Soleil, Morin concessionnaire la date, Mila dealer de MDMA dans le 16e, et moi je dis lâchez rien les gars, un remaniement Radio France et vous pourriez finir par les vivre vos rêves.
Merci, bravo
Marine. Nagui, la bande originale.
Et alors,
philosophe Marina.
T'as des huîtres à nous offrir ou pas, toi, avec tes fringues, Marina?
C'est garé à côté de...
On va parler d'une association aussi, d'une opération dans quelques instants avec Olivier Delahaye. Ça s'appelle Silence, on lit. On va l'évoquer avec lui, notamment suite évidemment à ce livre Lire, signé Cécile et Bernard Pivot chez Flammarion, parce que c'est une opération qui est née en Turquie, je crois, dans un lycée. On va en parler avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans vos vies. On parle de la lecture, mais la musique. Qu'écoutiez-vous, par exemple, en 59, Georges Brassens?
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village.
Vous aimez les chansons, Bernard, vous aimez les chansons françaises. Je me souviens même que vous avez eu la gentillesse ou la folie de m'inviter sur votre plateau pour parler de la chanson française et de la langue française dans la musique. Brassens, pour vous, c'était c'est un auteur avant d'être un
magnifique
interprète.
Ah, oui. Ah oui, en plus de ça, je l'ai connu, j'ai même dîné chez lui, je l'avais invité dans une émission sur l'antimilitarisme, parce qu'il était antimilitaire, alors là, donc c'est une émission célèbre d'apostrophe, parce que,
en fait... Ah, il y avait Gainsbourg-Béart aussi.
Oui.
Gainsbourg-Béart, c'était l'art mineur.
C'est longtemps après. Ouais. Non, mais là, il y a un épisode assez étonnant, parce que Brassens avait en face de lui, pour parler de l'antimilitarisme, il avait le général Bijard, le général Buys et le colonel Sergent, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment...
Vous cherchez les problèmes,
tous les trois disaient, mais oh, Monsieur Brassens, mais vos chansons, c'est merveilleux, etc. Alors Brassens reculait de plus en plus devant les éloges des militaires, et à un moment il a dit, arrêtez, vous allez me faire perdre mon public.
Et en 59, Bernard Pivot, vous publiez votre premier et unique roman,
oui.
L'amour en vogue. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui parlez si bien des livres des autres, du vôtre, de l'amour en vogue?
C'est un péché de jeunesse.
C'est-à-dire
parce que j'ai eu 6 mois, je ne savais pas quoi faire pendant 6 mois, donc j'ai écrit ce roman, qui est un roman très, très, très sympathique. Hein, mais
oui.
Les amours un peu contrariés dans ma ville natale, Lyon. Mais en même temps, ce n'est pas mon histoire. Mais c'est un peu transposé, c'est un livre un peu romantique, un peu drôle, etc. Mais enfin, je me suis aperçu en le relisant, que, quand je suis entré au Figaro littéraire, que je n'étais pas un vrai romancier.
Et vous l'avez lu?
Oui, j'ai lu.
Et alors? Merci.
Mais c'est bien écrit, mais c'est pas fameux, voilà. Enfin,
c'est mignon.
C'est bien écrit.
C'est mignon.
Oui, vous dites que c'est pas littéraire. C'est... Bernard Pivot, dans une interview, vous dites que c'est un roman très mignon, mais pas vraiment littéraire.
Non, pas du tout. Je me suis aperçu que je n'étais pas fait pour écrire des romans.
Mais ça, c'est intéressant, c'est de se dire qu'on peut être aussi un excellent lecteur, un très très bon passeur, mais pour autant qu'on ne va pas forcément faire carrière.
Oui, puis on peut aussi très bien écrire des essais, des récits, et ne pas être un romancier.
Absolument, mais ça. C'est important de faire cette dichotomie.
Moi, je suis plutôt un chroniqueur.
Voilà. Et pourtant, vous avez été élu à l'Académie Goncourt, généralement à l'Académie. Ouais. Ce sont des auteurs, des romanciers.
Oui, bah, aussi, je suis une exception à l'Académie Goncourt.
Il est président.
Je suis le premier journaliste à entrer à l'Académie Goncourt. Mais dans le statut de l'Académie Goncourt, il n'y a pas marqué que seuls des écrivains peuvent y entrer. Donc, c'est comme ça.
Mais finalement, vous avez sans doute fait lire beaucoup plus aux Français que la grande partie de ces auteurs de l'Académie. Donc votre place est légitime.
Edmond Charleroux, qui présidait à ce moment l'Académie Goncourt, m'a dit, écoute, on te fait entrer à l'Académie Goncourt parce que tu as rendu service à la lecture, tu as fait la promotion des écrivains, donc tu mérites d'avoir un couvert à l'Académie Goncourt.
Et votre livre, c'est qu'est-ce qu'il avait écrit?
Le...
C'était vous qui l'aviez écrit?
Oui, bien sûr.
C'est honteux ce que tu fais, Daniel. En 66, vous écoutiez Bernard.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille.
C'est cette chanson qui vous a donné l'idée du prénom de votre
fils ? Non, pas du tout. Non, avec avec mon épouse. On aimait bien son prénom Cécile, mais la chanson de Nougaro est superbe, elle est magnifique. Donc c'est une très très belle chanson.
Et 66, c'est la naissance de Cécile.
Voilà.
Dans un monde de livres, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, avec un père qui lit toute la journée, qui dévore.
10 heures par jour.
C'est fou. Toujours ce rythme-là, Bernard Pivot ?
Bah oui, du temps de la passion de culture, c'était obligatoire. Alors je pense qu'il y a des gens plus doués que moi qui auraient pu faire peut-être une aussi bonne émission en lisant plus rapidement ou moins longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais un petit côté besogneux, il faut bien le reconnaître, comme ça. Et pour faire une bonne émission, pour être assuré...
À quelle vitesse, d'ailleurs, vous lisez ?
Mais lentement, parce que je prenais des notes, donc je soulignais, je laissais rien passer, et je lisais même les notes de bas de page dans les essais, parce que très souvent dans les notes de bas de page, on trouvait les questions les plus perfides.
Ouais. Et à quel moment, vous, Cécile, vous vous êtes rendu compte que tous les papas ne lisaient pas 10 heures par jour et toute la journée ? Parce que j'imagine que quand on est dans cet environnement, on se dit que c'est la norme ?
Oui, absolument. Vous dites que tout est la norme quand vous êtes un enfant, hein, quoi que vous viviez. Donc, je ne sais pas à quel moment je m'en suis rendu compte. Je ne peux pas vous dire, parce que moi-même, je me suis mise à lire, dès que j'ai appris à lire, j'ai commencé à beaucoup lire. Donc,
il n'y a pas eu besoin de contraintes, c'est-à-dire que vous étiez naturellement
illettrice. Pas du tout. Non, vraiment, j'ai appris à lire. J'ai trouvé que c'était merveilleux et tout de suite, j'ai passé ma vie dans les livres.
Ça, c'est une belle réussite aussi, j'imagine. Ça doit être une belle réussite quand on
est père. Oui.
La transmission.
J'ai probablement pas été le meilleur des pères, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, j'ai été quand même cette réussite extraordinaire, c'est d'avoir fait que ma fille est devenue une excellente lectrice.
1975, vous écoutiez.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu. Le grand ridé, le Montpellier, tout, je vous dirai tout sur le zizi.
Bernard
La playlist de la semaine, Bernard.
C'est bio, non?
C'est génial.
Mais c'est pas vegan, hein, par contre.
Pourquoi cette chanson, Bernard, en
75? Parce que, je me rappelle, c'est une des plus belles chansons, des plus amusantes de Pierre Perret. Alors, Pierre Perret, non seulement c'est un ami, mais j'ai toujours adoré ses chansons un peu grivoises et gauloises. Et celle-ci est une réussite parfaite, absolument. Alors, ça a fait un peu scandale à l'époque, bien entendu. Mais
elle n'était pas interdite.
Non, elle n'était pas interdite. Non. Alors que par exemple, les jolies colonies de vacances avaient fait un scandale absolument épouvantable, parce qu'on s'en prenait une institution, les colonies de vacances à l'époque. Est-ce que le zizi n'a jamais été interdit, mais en même temps, elle choquait
Le zizi est une institution.
Non, enfin, regardez les paroles, elles sont quand même d'une truculence assez remarquable.
Mais parce que tous les garçons attendent de reconnaître le leur. Ils écoutent en disant je suis lequel dans la liste.
Et c'est nous, le petit joufflu ou le.
Je te le dirai pas. Non, no comment.
Et en 75, Bernard, vous créez avec Jean-Louis Servan-Schreiber le magazine Lire.
Oui, qui existe toujours.
Toujours, absolument. Alors qu'est-ce qui fait que tous les deux, vous avez décidé de vous unir pour,
C'est une idée, c'est la sienne. Hein, c'est la sienne. Et un jour, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit voilà, quand j'ai quitté le Figaro littéraire, on pourrait créer une revue ensemble. Donc, nous étions très différents l'un de l'autre et en même temps très complémentaires. Lui, c'était un vrai manager. L'imagination des revues à lancer. Et puis moi, je m'occupais du contenu. Donc et puis Lire a été tout de suite une réussite. Et maintenant, le journal continue.
Est-ce qu'à l'époque, on lisait davantage ?
Les gens, le public, je sais pas.
Je
trouve que ça, les gens lisent beaucoup encore. Je vois dans le métro, plein de gens qui lisent, des jeunes, des vieux, je suis pas pessimiste.
Oui,
c'est ça,
parce qu'on entend souvent des discours disant que les jeunes lisent de moins en moins, que les actifs également, et que finalement la lecture devient.
Ils lisent moins de romans, je pense, les jeunes. Les jeunes lisent moins de romans, mais ils lisent utile, je pense. Voilà.
C'est quoi lire utile ?
Ça veut dire qu'ils lisent plus pour leurs études. je pense. Voilà. Le roman, oui, ils lisent moins de romans. Ça, je veux bien croire que les jeunes de entre 20 et 25 ans.
Quoique maintenant, il y a le roman aussi pour les young adultes. C'est une sorte de mouvement dans la littérature qui est destiné à des 15-25 ans parce qu'il y avait aussi là un public qui marche
très bien. Tout à fait.
Qui n'est pas la littérature la plus reconnue.
Non, mais
ils
lisent.
Ils lisent. Voilà. C'est ce qui compte. C'est ce que vous dites aussi.
Moi, je pense que c'est ça qui compte.
Cécile a observé ceci qui me paraît très juste, c'est que les enfants en bas âge lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup. Il n'y a qu'à aller voir dans les bibliothèques, on voit les enfants assis qui lisent ça. Et puis, à un moment, ça s'arrête.
C'est vrai.
Et Cécile a très bien remarqué, c'est quand on leur donne un smartphone. Ouais, à ce moment-là, c'est fini.
C'est fini. Enfin, c'est compliqué. C'était rigolo. À Livre Paris, le vendredi, il y avait beaucoup de scolaires. Et c'était flagrant. Les petits, alors ils regardaient les livres autour d'eux, ils se baladaient dans les allées. Et les lycéens, ils se baladaient, pareil, dans les allées, sauf qu'ils avaient le nez comme ça, sur leur portable, en fait. Voilà. C'est fini. C'est fini.
C'est un peu triste. Ouais.
Voilà. Mais peut-être qu'ils lisaient des livres numériques.
Les ados, moins.
Non.
Je sais pas,
t'étais dans tous les téléphones.
Les livres numériques, c'est quand même pas le même rapport à,
papier.
La page, l'odeur, l'objet.
Oui, après, si au fond, l'intérêt c'est de lire, peu importe le support.
Absolument.
Voilà. Donc, il y a les nostalgiques, on a chacun ses préférences, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique de partir en vacances avec une tablette dans son sac à main, ou 50 bouquins.
Et puis lise. Voilà, c'est très bien aussi.
Cécile a quelque chose de très pratique, une bonne idée pour partir en vacances. Elle part en vacances avec des livres, elle revient, elle s'arrête à Lyon, elle dépose livres chez papa et elle rentre beaucoup plus légère.
Moi, je les abandonne dans les hôtels aussi souvent.
C'est vrai.
Je les laisse dans l'hôtel. Là où j'ai fini de lire un livre, je laisse à l'hôtel. C'est comme les magazines, une fois que tu as fini de les lire, pourquoi les ramener? Tu les laisses dans...
Ah non, moi je sais pas me débarrasser d'un livre.
Ah
non,
ah, moi, que j'ai aimé. Mal aussi.
Ah ouais, non, c'est
impossible. Si c'est un poche par exemple, moi j'ai pas de
scrupules. Ah non, moi ça me fait complètement gueule que ça soit un poche.
Si c'est un poche, j'abandonne moi.
Même les livres que vous avez aimés.
Même un dépliant, même un prospectus, je le garde.
Oui, parce que je me dis que c'est l'occasion de donner à quelqu'un la possibilité de rencontrer ce livre. Alors je le laisse.
Bien, vous êtes très généreux.
Mais elle fait pareil avec ses fiancés aussi. Elle les laisse en vacances si ça peut servir.
Elle les laisse à l'hôtel.
C'est
quoi, il y en a une qui va venir derrière. Elle va
être très généreuse.
Nous allons parler avec vous, Olivier Delahaye. Bonjour et merci de venir à ce micro. Vous êtes cinéaste et vice-président de l'association Silence, on lit, qui est une association dédiée à la promotion du plaisir. Alors, elle vient d'où, cette association? J'ai dit Turquie, est-ce que c'est vrai, faux?
Non, c'est vrai. C'est vrai, sauf que j'étais invité il y a un petit peu plus de 2 ans dans un lycée, enfin on appelle ça lycée, mais c'est une cité scolaire, à Ankara, et pour présenter un film que j'ai fait, et j'ai assisté à ça. Et c'était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment après le déjeuner, il y avait un petit carillon.
Une sonnerie.
Ouais. Et puis j'étais dans une salle de professeurs, tout le monde a plongé dans son sac, chacun a sorti un livre et s'est mis à lire sans plus s'occuper de rien. Et donc j'étais quand même un petit peu étonné, je suis sorti dans
Vous avez cru que c'était un flash mob organisé
j'ai surtout compris ce qui se passait quand je suis sorti dans ce grand bahut dans lequel il y a 2000 élèves à peu près, et tout le monde disait. Il n'y avait pas un bruit, pas un geste, pas.
Génial.
Et tout le monde était assis n'importe comment dans les classes. Je passe devant le bureau de la directrice, elle était derrière son bureau en train de lire. Son assistante était dans un fauteuil en train de lire, etc. Enfin, et le soir, je dîne avec elle et je dis, mais écoutez, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et on a passé en fait une grande partie du dîner à parler de cette pratique qu'elle avait mis en place depuis 15 ans.
13h35.
Alors 13h35.
Ça sonne et ça lit pendant combien de temps?
15 minutes. Et donc du coup, je suis rentré, j'étais fasciné, vraiment, par ce que j'avais vu. Je suis rentré, j'ai écrit un article et il se trouve que quelqu'un m'a mis en contact avec Daniel Salnave et qui m'a immédiatement, quand je lui ai envoyé l'article, le soir même, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoutez, je trouve ça formidable. Elle avait senti les mêmes tout le potentiel qu'il y avait là-dedans. Et donc, elle nous a invités, la directrice du lycée turc et moi-même, à Brive, à la foire du livre de Brive qu'elle présidait cette année-là. Et en revenant, en rentrant, on s'est dit, créons une association. Donc on a créé tous les trois, Ayşe Başavuşoğlu, qui est la directrice du lycée turc, Daniel Salnav, donc membre de l'Académie française, ce qui permet donc à Silence on lit d'être soutenu par l'Institut, avant d'être abrité, nous espérons, et moi. Et on a créé cette association dont le but, en fait, est de faire la promotion et d'aider à la mise en place de ce temps de lecture dans tout type de collectivité. On commence par les établissements scolaires, mais le but, ça serait aussi de faire en sorte que dans les entreprises, dans les administrations, tout le monde sache à un moment de la journée s'arrêter et prendre un moment pour faire le silence et pour tous ensemble lire. Et c'est ce qui se passe dans déjà pas mal d'écoles, de lycées, de collèges. Donc actuellement, on est en contact avec plus de 500 établissements scolaires dans lesquels, à un moment de la journée, tout s'arrête et tout le monde lit.
Arrive encore le monstre du smartphone, du téléphone, j'imagine, dans une entreprise. Vous dites, moi je veux bien qu'il y ait une sonnerie qui sonne à France Inter en disant on s'arrête, on lit. Il y aura toujours un téléphone qui va vibrer, un mail qui va arriver.
Tout ça demande à être...
Des interférences extérieures.
Alors tout ça demande vraiment à être préparé.
Parce qu'il faut le silence.
Il faut un silence absolu. Et donc c'est pour ça que
C'est presque du yoga.
Du silence.
Vous pensez que chez Renault et Peugeot, on va arrêter la chaîne pour lire pendant un quart d'heure?
Je n'ai pas cette naïveté. Je me dis que si on prépare, si on adapte les choses, évidemment, ça ne sera pas la même chose dans les entreprises que dans les écoles. Mais c'est quelque chose vers lequel on peut tendre. Ouais. C'est-à-dire que le lieu de travail ne soit pas qu'un lieu de productivité, mais soit un lieu aussi où les gens peuvent prendre un moment pour eux-mêmes, se retrouver, se cultiver. Et donc, la bataille n'est pas gagnée. Même dans les écoles, ça demande beaucoup de préparation. Et donc, on demande aux établissements scolaires de passer par l'association, et on va dans les établissements scolaires pour les aider à mettre ça en place.
Et puis il faut des livres aussi, c'est-à-dire est-ce que l'association fournit des livres, chacun choisit celui qu'il veut, comment ça se passe ?
L'idée c'est que on a toujours un livre avec soi. Donc il y a ceux qui peuvent avoir des livres chez eux, et puis on est tout à fait conscient que dans certains milieux, etc., pour X raisons, économiques, culturelles, etc., on ne lit pas. Donc c'est là où la préparation est importante, pour mettre ces élèves, quand on parle d'école, avec évidemment les CDI, mais aussi avec les bibliothèques municipales. Et nous, on est en train aussi ça fait partie du job de l'association, de fournir des livres, effectivement. Donc là, on est en train de créer un partenariat avec Bibliothèques sans frontières, qui récupère plus de 700 000 livres par an, qui les classe, qui les...
Ce sont les livres de Bernard qu'il n'a pas lu. Il ne veut pas lire les 700 000, hop.
Et donc de redistribuer ces livres à ceux qui n'en ont pas.
Qu'est-ce que ça apporte, ces 15 minutes de lecture ? Est-ce que c'est... J'ai dit tout à l'heure, yoga, c'est un moment de détente, justement, et ça crée d'autres relations au sein du collège, du lycée, de l'université. Est-ce que ça apporte une ouverture d'esprit, un voyage dont nous parlions tout à l'heure ?
Petite parenthèse.
Quel est le truc en plus ?
Tout à fait. Le premier retour que l'on a, mais vraiment de beaucoup d'établissements, c'est le silence. Ces 15 minutes de silence nous font énormément de bien. Et dans ce silence, après, le fait de lire, et de lire librement, parce que c'est la liberté totale de lecture. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'interrogation, on ne regarde pas ce que chacun lit.
Donc, en
échange, bien sûr.
Plaisir.
Voilà. Oui. Et on va vers le plaisir. Après, charge à nous, et ça fait partie aussi de ce que l'association veut faire, de proposer des lectures, d'amener les gens vers la littérature étrangère, vers lire d'autres choses, parce que effectivement au départ, ce qui est important, si quelqu'un veut lire que des Arlequins qu'il lise que des Arlequins, très bien.
Oui.
Une fois que ce plaisir sera installé,
une bande dessinée, ça peut.
On peut lire de la bande dessinée, d'accord. Tout à fait aussi.
Moi, je trouve une dimension que je trouve très intéressante. Au début de l'émission, on disait que lire c'est un plaisir égoïste, parce qu'on se replie en soi. Mais là, comme c'est tous ensemble, donc cet égoïsme devient une sorte de plaisir partagé avec d'autres. Et ça, cette dimension-là de presque altruiste est assez passionnante.
Oui, vous avez raison, parce qu'il y a effectivement des partages, et des partages non seulement entre enfants, mais aussi entre enfants, enfin, ou adolescents et adultes, entre genres de classes différentes. Et ça change effectivement beaucoup de choses.
Est-ce qu'on note un apaisement dans l'apprentissage ? Est-ce que vous êtes déjà en mesure de dire que voilà, ce temps-là, même si, sans être miraculeux, amène une forme de concentration, de moins d'excitation ?
Évidemment. Alors ça, c'est sûr à 200%. C'est-à-dire que
cas, ça peut pas faire de mal. C'est que vertueux.
Non, mais je crois vraiment que ça apporte ça.
Oui, ça apporte effectivement.
Si un proviseur ou des professeurs sont intéressés, ils peuvent vous contacter comment ?
À travers, ils vont sur le site. Sur le site silenceonlit.com. Il y a là un petit formulaire avec
pour entrer en contact.
De rentrer en contact. Mmh. On parle après longuement avec eux, on leur envoie un kit de préparation et on va dans les établissements. Super. Pour mettre ça en place.
Merci beaucoup d'être venu nous... Ah pardon,
c'est
pardon,
si je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'il faut que tout le monde aille voir des vidéos sur comment ça se passe, il y a eu des reportages sur comment ça se passe dans les écoles. Et c'est vraiment impressionnant, il faut aller les voir parce que on a vraiment l'impression que la vie s'arrête dans le collège ou le lycée, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit en effet tous les élèves qui sortent leur livre de cartable, les gamins qui étaient dans le couloir, hop, qui s'assied, qui prennent un livre, la personne de la cantine scolaire. C'est vraiment l'impression que la vie s'arrête, le silence se fait, et c'est magique, oui, vraiment.
En espérant que ce soit respecté, parce qu'il y aura toujours un rigolo de service qui...
D'où la formation, ouais, je crois. C'est ça, voilà.
C'est ça. Mais Nagui est tellement convaincu par cette affaire qu'il a décidé de faire un quart d'heure de lecture dans son émission chaque matin.
Tout comment, les garçons? Les filles,
allez. Vous savez, quand vous travaillez avec Nagui, le silence prend une valeur.
Merci Olivier. Tanguy Pastureau reviendra tout à l'heure. Tanguy, justement, bonjour. Vous avez quelque chose pour Daniel Morin.
Oui.
Le Viagra fête ses 20 ans.
Oui, il a été lancé le 27 mars 98 aux États-Unis. Il a fait ressembler les hommes au lit aux villes américaines, c'est-à-dire qu'on est passé d'un pavillon de plein pied dans le New Jersey à l'Empire State Building de New York. Le Viagra, c'est le médicament le plus acheté au monde, à égalité avec l'aspégique à Vegas quand on a assisté au show de Céline Dion.
Très bien. C'est dans la deuxième partie, Cécile et Bernard Pivot sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadoboudaïdi, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Tom Villa.
Bonjour.
Et nos invités Cécile et Bernard Pivot. Je veux dire d'ailleurs Cécile Pivot et Bernard Pivot, parce que c'est vrai que voilà. Pardon, je suis désolé. J'ai vu le regard de Cécile.
Non, pas du tout.
J'ai aussi un nom de famille. Oui, non, je blague.
Pas de problème.
Lire, donner cette envie de lire, cette vous apostropher sans mauvais jeu de mots comme ça le lecteur en disant mais et vous. Parce que c'est vrai que quand on vous lit, quand on voit votre rapport à la lecture, rapport au livre, rapport à la position de la lecture, rapport à la consommation du livre, au choix des livres et au rapport que l'on a, on se pose des questions aussi sur soi et moi. Mais c'est vrai que je lis, alors j'ai culpabilisé de lire un peu allongé, de lire au
faut
lit.
Pas, mais, hein, pas du faut pas.
Et après je me suis rendu compte, non mais je me suis dit mais non mais c'est vrai que je lis au lit. Et je me suis rendu compte
c'est quelqu'un qui vous lit votre que, bouquin.
Et je me suis rendu compte que beaucoup et souvent c'était assis à table et je me rendais pas compte en fait que j'avais je prenais pas ça pour il faut que ça soit dur comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais comme généralement j'ai pas fini, je continue après
au lit. Que il peut pas y avoir un plaisir concurrent de celui de la lecture. Oui. Par exemple, je ne bois pas, je ne fume pas pendant le.
Et on peut pas écouter de la musique.
On peut pas écouter de la musique.
Ouais, pour pas gêner les personnages. Vous dites oui, ça, c'est très drôle.
Fume pas parce que effectivement ça peut gêner les personnages du roman.
C'est vrai. Ils sont pas tous fumeurs. Tabagisme passif. Faut faire gaffe. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle.
Donc on doit être entièrement dans ce plaisir là et ne pas apporter d'autres plaisirs qui polluera, seraient concurrents.
Et je veux pas être ni malpoli ni.
Tais-toi alors.
Tais-toi.
Non mais est-ce qu'on peut lire est-ce que vous lisez au petit coin par exemple?
Oui,
évidemment.
Ben oui, parce qu'on est parce qu'on est bien assis.
Bien sûr,
très bien. Oui,
c'est les hommes qui lisent aux toilettes.
Vous non.
Ah non, je connais pas beaucoup. C'est vrai que les toilettes. Hein. C'est vraiment une histoire.
Chronomètre en main, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une histoire d'homme.
Ah mais bien
c'est
sûr. Vrai.
Alors comment donner envie? Et là, c'est à la maman que je m'adresse parce que vous en parlez dans ce livre, lire chez Flammarion. Je vous rappelle comment donner envie aux enfants de lire. Vous dites la première chose, c'est de leur lire des histoires pour qu'ils aient envie de continuer.
Oui, je pense qu'il faut tout essayer. Faut leur lire des histoires à voix haute longtemps, je pense, très longtemps en fait. Moi, je crois que je me suis arrêtée trop tôt. Faut aussi les emmener dans les bibliothèques, les festivals. Je crois qu'il faut tout essayer. Moi, j'y suis pas très bien arrivée, hein, donc j'ai pas mon conseil. C'est de l'humour, mais c'est vrai qu'à la fin, je mets dans la thématique comment inciter les enfants à lire. Mon conseil, c'est ne faites pas d'enfants. Voilà. Si c'est moi, j'ai pas de. En fait, j'ai
Bernard, il y a un truc un peu malin. C'est que l'enfant qui lit doit se rendre compte au bout d'un moment que, en lisant, il échappe à des corvées de la maison.
Oui.
Voilà. Donc, il va échapper à la vaisselle, il va échapper à aller chercher le pain ou à descendre le chien,
etc. Ou des choses.
Voilà. Et je veux dire que là, c'est peut-être une sorte de bonus.
Moi, j'ai saisi ça très jeune.
On peut pas déranger un enfant qui lit. On ne peut pas le déranger.
Alors, justement, on ne dérange pas quelqu'un qui lit. Ça aussi, vous le dites, vous l'écrivez. Que ce soit dans les transports, sur un banc public, dans un parc, quand quelqu'un lit, il est dans une bulle.
Alors, je pense qu'on ne dérange pas les enfants qui lisent dans les familles. Enfin, dans la plupart des familles, quand même, lire, c'est sacré. Donc, un enfant qui lit, on va le laisser tranquille. Et c'est toujours rassurant, un enfant qui lit. Même un enfant qui n'a pas de bonnes notes ou qui est indiscipliné. Oui, mais il lit. Donc, ça rassure toujours les parents. Enfin, moi, je crois. Hein,
Dans
beaucoup de familles, voilà. Oui, je parle de moi-même, mais pas seulement. Après,
je remettrai le dictionnaire dans cette histoire et j'encouragerai les parents devant les enfants à ouvrir le dictionnaire.
Absolument, vous avez
raison.
Parce
que les parents passent toujours pour je sais tout et répondent à des questions de qu'est-ce que ça veut dire et ils donnent des réponses. Et de se lever, de prendre un dictionnaire et de dire, tu sais quoi, on va regarder la définition. Par exemple, j'ai regardé la définition de lire. On n'a pas le réflexe de dire, on a le sentiment tous.
On partait de loin pour l'émission.
On a le sentiment tous de savoir ce que lire veut dire. Alors évidemment, la définition est donnée, est expliquée, elle est claire. Mais l'étymologie est passionnante. Ça vient de cueillir ou de recueillir. Et là, ça donne encore une autre dimension. Oui. À la lecture, ce côté carpe diem un peu.
C'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai pas assez consulté enfant les dictionnaires. Et qu'en revanche, j'adore les dictionnaires d'étymologie.
Et je
conseille ça en effet, c'est-à-dire que je dis que les enfants qui ont du mal à consulter les dictionnaires classiques, il faut aussi essayer de passer par les dictionnaires d'étymologie, parce que c'est souvent très drôle.
Et c'est là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que vous donnez un conseil dans votre livre d'une application que j'ai pour justement consulter un dictionnaire et qui d'abord qui est payante, deux il y en a une autre qui est gratuite et qui est
payante une fois. Enfin moi franchement.
Oui mais qui est payante. Il y en a une qui est gratuite
ça et où une pince, et où
non c'est pas ça et je trouve que ça manque d'étymologie l'application qui est gratuite où l'étymologie est bien développée qui est le Littré que je vous recommande elle est
probablement
il y a l'étymologie
non moi je disais juste génial, que c'était aussi c'est formidable quand vous êtes dans les transports
que
ça permet
c'est une application sur le téléphone
mais sûrement alors je vais prendre
dictionnaire d'autrefois aussi éventuellement pour aller chercher les occurrences et les exceptions.
Moi, j'avance une autre idée dans le livre, c'est que c'est de dans les familles pour donner aux enfants l'amour des mots. Chaque jour, le père, la mère ou les enfants reviennent le soir et écrivent un mot sur le réfrigérateur ou sur un
petit tableau noir.
Et mettent un mot qu'ils ont découvert, qu'ils ont entendu dans une conversation à la radio, à la télévision, dans la presse, et en discutent entre eux. Et en discutent en disant voilà ce mot-là, ce que ça veut dire, etc. Ils en parlent 5 minutes. Faire un jeu, voilà, toujours. Et ça peut donner le goût des mots et l'envie de consulter les dictionnaires.
Lire, c'est chez Flammarion, signé par Cécile Pivot et Bernard Pivot. Voici Tanguy Pastureau, ça arrive. Alors Tanguy, cette semaine, le Viagra fête ou a fêté ses 20 ans.
Oui, le Viagra, c'est cette pilule bleue qui peut transformer Papy Ghislain, 85 ans, en bête de sexe insatiable. Ensuite, ce dernier fait l'amour à sa femme, puis au rideau de la fenêtre, accouplement dit de Saint-Maclou, puis à la commode et 4 heures plus tard, sur la porte de la chambre, on voit des traces de griffes, celles de Fifi, le teckel de Papy Ghislain, qui a tenté de fuir dans un long cri rappelant la chanteuse Adèle en live. Alors la découverte du Viagra s'est faite par hasard. En 97, les laboratoires Pfizer teste le citrate de sildénafil pour guérir les angines de poitrine. Ils se disent, dans 20 piges, il y a Nabila qui déboule. Elle passe sa vie avec 4 cm carrés de tissu sur les boobs. Faudrait pas qu'elle clamse. Ils en donnent à des patients. Un mois, c'est cool. Puis les chercheurs revoient les cobayes, lesquels leur tombent dans les bras en hurlant « Merci mon pote, j'en suis à mon 3e matelas depuis le 2 octobre. La vache, j'ai à nouveau 20 ans. D'ailleurs, j'ai ressorti mes albums de Cat Stevens et je refume du shit. » Là, les chercheurs répondent « Ah, ça va mieux votre poitrine alors ? » Et les patients disent non, on crache comme des mineurs chinois qui seraient mis aux gitanes sans filtre. Mais par contre, ça a réveillé tout le reste. Si Alain Bougrain Dubourg prend votre truc, il va se transformer lui-même en perchoir pour étourneau et va pouvoir revendre tout son matériel. Alors les types de Pfizer qui sont des incapables, s'ils avaient cherché à soigner la rage, ils auraient au final inventé une crème anti-mycose. Ils se disent, mais par le téton gauche de Tabata Cash, on tient un remède contre l'impuissance. Ça va générer des millions. À appelle Josie à la banque postale pour lui dire qu'on met tout à Dubaï. Alors, avant le Viagra, le traitement de la dysfonction érectile se faisait avec des piqûres dans le pénis, hein, comme dans le cyclisme. Ensuite, votre pénis s'alignait sur le départ du Tour de France. Lance Armstrong lui disait « je vais t'éclater » et ça se réglait sur le col du Tourmalet. Bref, c'était 4 heures de souffrance pour une minute de plaisir. Comme lorsqu'on veut boire le lait d'une noix de coco, alors que pour la percer, on a juste un trombone. Donc, quand le 27 mars 98, le Viagra est arrivé, ça a été une délivrance pour les mâles. Un cachet, 20 minutes à attendre, 60-30 de moins que le train de 9h56 quand il est 9h55 et qu'il y a un incident voyageur. Et là, pouf, c'était reparti. Magie, il y avait aussi un lapin qui sortait d'un chapeau, deux colombes et Ribéry en train de lire du Sophocle. Dans les 15 premiers jours de sortie du Viagra, 150 000 personnes se le font prescrire aux États-Unis. C'est la première fois à la bague dans le métro le matin, tout le monde sourit. Au moindre passage dans le wagon, le Péruvien qui écorchait le Condor Passa à la flûte de Pan récolte 9 000 $ dans son bonnet, tellement les mecs sont heureux.
Et le Viagra est arrivé en France 6 mois plus tard, donc en septembre 98.
Oui, 6 mois où les Américains en vacances à Paris nous ont humiliés en club coquin parce qu'eux étaient déjà sous Viagra. Du coup, les Français restaient au buffet à manger du céleri rémoulade. Hein, les types disaient au propriétaire du club, c'est pas juste José, faire entrer des SK, hein, lui qui soit sous Viagra, sous taboulé ou sous chipster, c'est pareil, il est à fond, il va laver notre honneur. En 2000, Pfizer fait $1 milliard par an rien qu'avec le Viagra. C'est énorme. Il s'en écoule autant que de copeaux pour toilettes sèches à Notre-Dame-des-Landes. Alors très vite, la contrefaçon s'en mêle. Aujourd'hui, 80% du Viagra vendu sur Internet, c'est du faux. Hein, ça marche mal. Quand on en prend, on a une érection, mais de l'oreille gauche. Hein, ce qui est, pour l'acte est complexe. Seuls les acrobates du Cirque du Soleil peuvent se débrouiller avec ça. Le Viagra contrefait, c'est véridique, peut aussi contenir du plâtre. Hein, c'est du Viagra portugais. En fait, hein, vous pouvez monter une salle de bain en 2 heures rien qu'avec le sexe. Et ils peuvent même contenir de l'encre pour imprimante. Donc c'est très toxique. Hein, achetez du vrai. Alors à noter que tout ceci...
Non, mais c'est le conseil du jour.
Ah, bah, bien sûr. Acheter du vrai Viagra. Alors à noter que tout ceci, bien entendu, ne concerne que les hommes, hein, puisque le monde entier tourne autour de la puissance érectile de nous autres, bof de base. Et si on arrive vraiment plus, on achète une grosse Audi ou on devient dictateur en Corée du Nord. Un Viagra pour femmes, l'ADI, hein, censé relancer leur libido, fut testé en 2015, mais petit souci, il provoquait des vomissements, ce qui est gênant pendant l'acte. Hein, les petites amies de Pete Doherty peuvent en témoigner. Et même des pensées suicidaires. C'est-à-dire que l'homme sous Viagra arrivait triomphant en slip à trompe acheté sur le site de Patrick Sébastien en chantant « I'm too sexy for my girl » et il se retrouvait face à une dame sous ADI en train de se trancher les veines avec le bord d'une feuille A4 en se disant « au moins s'il a pris du faux Viagra et qu'il y a de l'encre pour imprimante, ça nous fera peut-être un dessin à mettre sur le frigo ». Alors les femmes sont obligées, si elles veulent rebooster leur activité sexuelle, de subir un traitement au laser, hein, comme dans Star Wars, sauf que le gynéco n'arrive pas déguisé en Dark Vador, ou alors s'il le fait, mettez-lui seulement une étoile sur Doctolib. C'est totalement sexiste. Hein, on se dit, les mecs, ça refonctionne, donc les femmes sont contentes. Hein, c'est du niveau de Néandertal. Ensuite, on peut partager un steak charal cru en disant à son épouse des trucs comme « onk, onk ». Bref, ça fait 20 ans que nous, les hommes, avons retrouvé de notre superbe, sauf ceux qui consomment du faux Viagra et qui sont occupés à bâtir leur maison sans les mains. 20 ans, Nagui, de plaisir.
Merci, Tony Bosch. Lire, signé par Cécile Pivot et Bernard Pivot chez Flammarion, vous donnera envie de lire, vous permettra d'apprendre 2-3 trucs aussi sur les rapports entre Bernard Pivot et les livres. Et vous finissez, il y a un thème aussi où vous abordez la notion d'écriture. Est-ce que lire donne envie d'écrire? Ça a été votre cas lorsque vous avez écrit votre récit sur votre enfant? Cécile,
ça m'a donné envie d'écrire très tard en fait. Enfin, pour moi, lire, écrire, c'était vraiment sacré. C'était compliqué pour moi d'écrire, vraiment. Alors, je pouvais écrire quand j'étais journaliste, des éditos, des reportages, mais le livre, écrire un livre, pour moi, c'était du domaine du rêve, inaccessible, très compliqué.
On se sent pas à la hauteur.
Parce que j'ai vécu parmi les livres, parce
que
mon père c'est Bernard Pivot, donc vous imaginez, enfin, c'est très compliqué. Enfin, je ne vais pas m'allonger là,
mais
c'est vraiment, je pense que c'est très compliqué.
Est-ce que ça peut donner envie à des lecteurs lambda?
Ah, bien sûr, moi je pense
sans
que
ce poids et ce passé.
Ça peut donner envie d'écrire, et il y en a d'autres à qui ça ne donne jamais envie d'écrire, je pense que c'est un peu.
Il n'y a pas de règle.
Je pense pas qu'il y ait une règle.
Échanger de nom, vous y avez pensé,
non.
Pour publier.
Non, ça, j'avais. Ouais. Non, ça,
vous appelez Cécile Drucker, par exemple.
Ou bien j'écrivais un livre. Bon choix. Non, je sais pas. J'ai pas eu peur de ça. Je me suis vraiment. Il y avait. Non.
Est-ce qu'on choisit un livre en fonction de son humeur aussi, en disant je suis là aujourd'hui, je suis un peu chafouin, je sais que je vais dire ça, ça va me.
Comme un disque.
Ça, du temps d'apostrophe. Et maintenant, avec le Goncourt, je suis très soucieux, justement, de l'humeur. Je me suis aperçu que certains jours où. On est euphorique, il fait beau, on est en vacances, etc. On prend un livre, c'est magnifique, on le trouve naturellement excellent. Et puis un autre jour où il fait mauvais, on a des problèmes de famille, etc. Le livre pâtit de l'humeur qu'on a. Et donc, j'ai fait très attention à ce changement d'humeur, qui n'est pas important, mais qui peut quand même interférer sur le plaisir de lire.
Et à l'inverse, est-ce que le livre peut changer votre humeur? Vous êtes de mauvaise humeur, vous allez prendre tel livre pour vous remettre de bonne humeur.
Ça, c'est...
Et pour chafouin, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais chafouin, on pense que ça veut dire triste, mais chafouin, c'est quelqu'un de sournois. C'est ça, mais en fait, c'est quelque chose de, quelqu'un de sournois.
Tu as raison, tu as raison.
Quand on dit chafouin, on pense que ça veut dire qu'on est triste.
Tu as raison. Et l'enchaînement est tout trouvé. Après sournois, voici Daniel Morin.
Quelle atrocité.
Il est chafouin.
Mais quelle joie, quel bonheur, quelle fierté. Deux pivots dans la même émission. Une émission deux fois plus intelligente. En même temps, vu le tour de table, c'est pas du luxe. Alors comme ça, les pivots, vous voulez donner envie de lire à la France. C'est pas ici qu'il fallait venir le dire. Enfin, fallait aller chez Augustin Trapenard ou Laurent Blair, des gens intelligents et cultivés. Ah, ici, on reçoit des comédiens vaniteux, des chanteuses folles, mais des gens intelligents comme vous, non, on n'en reçoit pas. Bon, ça fait plus d'une heure que vous êtes là, restez, hein. En tout cas, vous n'allez pas partir maintenant. Mais c'est bien ce que vous faites, vous cherchez pas à embrouiller le client. Votre livre pour partager votre passion de la lecture, c'est clair, on sait où on va lire. Il n'y a pas de piège. En plus, vous donnez des conseils, et ça, les conseils, il n'y a rien de mieux. Comment donner envie aux autres de lire? Moi, mon cousin, Jackie, il lisait plein de trucs à ses petits frères et ses petites sœurs pour qu'ils aient envie de pratiquer la lecture. Et pourtant, il n'avait pas eu une enfance facile dans le Nord. Petit, son père lui mettait des coups de fourche et sa mère des coups de marteau. Mais bon, malgré les séquelles, il était très attentionné avec les petits. Le soir, quand les enfants étaient au lit, il tamisait la lumière et commençait son récit. Il était toujours très inventif. D'un prospectus, il faisait un roman à suspense. Il était une fois chez Auchan, une semaine de promo incroyable. Des réductions de 10, 20, 25, 40 et même 50%. Il y avait de bonnes affaires de folie. Une tronçonneuse à 1 euro au lieu de 4 chats. Un kilo de moutarde à 4 euros au lieu de 10. Mais on avait des packs que les mamans voulaient. J'étais une grosse réduction sur le gigot. En Pâques, tout le monde, il veut du gigot d'agneau. Le gigot, mais pas que, le flageolet aussi. Parce qu'un gigot de Pâques sans flageolet, c'est pas vraiment un gigot de porc. Puis à la dernière page du catalogue de promotion, qu'est-ce que voit pas la maman? La photo du gigot avec marqué dessus. Moins 50%. Et une belle photo qui sentait bon. Comme on dit les jours de miracle, Alléluia! Brogère et Schichter. La maman, elle court dans la chambre, elle réveille son mari bourré à la bière et elle gueule. Hey, réveille-toi maintenant! Débouche, chômeur! Faut que t'ailles chez Auchan, il y a moins 50 sur le gigot, mange-toi chez Pâques! Et là, le mari, il chante sur son mobilette et il file comme un fou à 24 km/h direction Auchan. Est-ce que le mari chômeur, il va arriver chez Auchan? Ou bien il va se tuer dans un virage? Et s'il arrive, est-ce qu'il va rester du gigot en promo? Charles et gamin, je vous le raconterai demain soir. Comme quoi, avec un peu de bonne volonté, beaucoup d'imagination et des prospectus bien écrits, on peut faire aimer la lecture à tous. Merci les pivots, bon week-end à tous.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Cécile, je voudrais juste parler de votre métier. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans différents magazines. Vous avez écrit ce livre sur Antoine,
votre fils.
Ce récit. C'était urgent pour vous de l'écrire. Vous aviez...
C'était urgent.
Ça vous a fait du bien de l'écrire, en fait?
Est-ce que ça m'a fait du bien? Oui, je crois que ça m'a fait du bien, tout compte fait. Sur le moment, ça a été un peu douloureux, mais...
Ça s'appelait comme d'habitude.
Oui, ça m'a fait du bien. Oui, j'étais vraiment... Je suis très heureuse d'avoir écrit ce livre.
Et Antoine va bien?
C'est Antoine. Il va plutôt bien. Non, franchement, il va plutôt bien. Il est dans un hôpital de jour qui est formidable et il commence à travailler dans
autiste,
un ESAT.
Hein, oui, donc il va bien. Il faut le préciser.
Il va, voilà. Il va plutôt bien.
Mmh. On en parle souvent dans cette émission parce que on est conscient que la France n'est pas le pays le mieux équipé et le plus attentif à l'autisme, malheureusement. Absolument. Et que l'on met d'ailleurs dans cette catégorie beaucoup de problèmes qu'on ne sait résoudre en disant bon, bah, c'est d'autisme. Et on fait pas attention, alors qu'en Belgique ou dans les pays.
Oui, mais il y a des choses quand même. Européens. Il se passe des choses en France. Très sincèrement, mon fils a 23 ans et je trouve qu'entre hier et aujourd'hui, il y a des structures qui se montent, beaucoup d'associations. Non, non, il se passe des choses. Le diagnostic, pardon, et je voudrais juste, à ce sujet-là, puisqu'on parle de ça, dire qu'il y a un film formidable qui sort le 4 avril, qui s'appelle un documentaire, qui s'appelle Percut Jam, qui est l'histoire d'un groupe d'artistes autistes. Et c'est un documentaire formidable. Voilà.
Très bien. Tu vas en parler d'ailleurs, Daniel, de l'autisme. Ça sera dans Vous, les femmes, dimanche.
Dimanche à 17h, donc je vais recevoir Valérie Carsanti et Anne Goscinny, mais également Sophie Janois, qui est avocate et qui viendra nous parler de la situation de l'autisme en France, la veille de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui est lundi 2.
Voilà, c'est important de le préciser. Parmi vos projets, vos envies, d'ailleurs, Cécile, vous avez envie d'écrire un nouveau livre, vous avez envie de...
Oui, j'essaye d'écrire un roman. Je dis j'essaye. Mais j'écris un roman, oui.
Et à partir de quel moment on sait qu'on réussit ou pas?
Je sais pas, justement.
il faut un regard extérieur, il faut...
À moi, il me faut un regard extérieur.
Il faudra qu'il y ait quelqu'un de confiance dans la famille.
Il faut un regard extérieur, oui, oui. Vous, absolument.
Vous êtes son relecteur, éventuellement? Non. Dans ces circonstances-là
pas
ou pas?
Pas le premier.
Pas le premier, d'accord.
Non, le premier relecteur, c'est mon compagnon, qui a un très bon relecteur. Assez dur, hein. Voilà, mais...
J'espère.
Mais, oui, voilà, mais...
Objectif et honnête, voilà. C'est important. Ouais. Bernard, vous partagez votre emploi du temps entre vos chroniques au JDD et l'Académie Goncourt. Vous avez...
Des spectacles aussi. Oui, 4 ou 5 fois par mois, je vais en province, etc. Bientôt, je serai au Lucernaire pendant une semaine, fin mai, début juin. Voilà. C'est Jean-Michel Ribes qui m'a donné ce virus. Il m'a dit un jour, écoute, je te donne une salle de mon théâtre, le théâtre du Rond-Point. Je fais venir du public et toi, tu montes sur scène et tu lis des textes. Alors, je l'ai fait. Et puis après, il m'a demandé d'écrire un vrai texte pour la scène. C'est Au secours, les mots m'ont mangé. Et j'en suis maintenant à près de 70 représentations.
Avec ce même spectacle.
Oui, oui, oui. 70 représentations. Et donc, j'aime bien avoir ce contact avec le public que je n'ai jamais eu à la télévision. À la télévision, quand vous avez fini l'émission, on se sépare, mais on ne sait pas si le public est content ou pas content. Est-ce que là, vous n'avez pas 2 millions de personnes devant vous, vous en avez 200, 300 ou 400, mais vous les entendez rire, vous les entendez applaudir, etc. Vous avez un contact charnel avec eux que vous n'avez pas à la télévision. Et donc j'ai découvert ce plaisir sur le tard, et surtout le plaisir de faire rire. Ça, c'est un plaisir extraordinaire que je n'ai pas eu, et ça, c'est vraiment épatant.
Dernière question avant que nous nous quittions, est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde de football?
Je le souhaite en tout cas, mais en même temps, vu des 2 derniers matchs, je suis un petit peu inquiet.
Non, mais il y a une marge.
Mais oui, il y a une marge de progression.
De progression. Est-ce qu'à la maison, quand il y avait foot, il y a hors de question de lire ou de faire autre chose parce que Bernard regardait les matchs?
Oui. Ah non, mais moi, je veux pas entendre parler de foot dans ma vie. Je vous dis franchement, parce qu'il y avait mon père qui était et ma mère pareil. Hein.
Mais oui, je sais. Mais moi, je les ai croisés tous les deux au stade régulièrement.
Non, c'était insupportable. quand vous n'aimez pas le foot, évidemment, c'est insupportable. Non, moi, j'ai vu ma mère pleurer à revenir de certains matchs Saint-Étienne. Elle pleurait.
Ouais. À cause du résultat.
Oui. Alors.
Mais moi, je préfère que Cécile ait donné, gardé l'amour de la lecture.
Que du football.
Que du football. Ça, franchement, je préfère.
Mais Bernard, j'ai regardé sur Twitter, vous êtes abonné à Saint-Étienne et aussi au compte de Jean-Michel Aulas, qui est le président de l'OL. Ils le savent à Saint-Étienne?
Mais je m'informe, je suis un journaliste.
il le venin, Tom.
Pas du tout.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, beaucoup d'excuses. Désolé pour tous nos auditeurs lettrés qui nous ont appelés pour regretter qu'on prenne pas plus de temps pour débattre de fantômette. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Bernard, je vous ai pas beaucoup entendu sur le sujet. Ah oui, alors, désolé pour tous les psys de Cécile Pivot et de Leïla Kaudour Boudadi qui ont pu entendre ce matin qu'ils avaient encore énormément de boulot pour régler leur côté hypermaniaque. Désolé pour Bernard Pivot, enfin, voilà, qui, après avoir été absent durant toute l'enfance de sa fille, a découvert justement qu'elle n'avait pas aimé son roman, qu'elle ne regardait jamais apostrophe. Et encore, vous savez pas ce qu'elle nous a dit à la pause sur vos fringues.
Ça s'appelle Lire chez Flammarion, signé par Cécile Pivot et Bernard Pivot. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous lire justement et de vous accueillir.
Merci
J'espère
beaucoup.
Vous revoir très bientôt. Bonne journée. Merci avec Nagui. Les carnets de campagne de Philippe Bertrand et le best-of. Ça sera samedi après-midi. Le meilleur, pardon. On va parler en français. Le meilleur. Le meilleur de la bande originale avec Daniel Morin. C'est le samedi à 17h. Et vous, les femmes, consacrées à l'autisme, ça sera dimanche à 17h sur Inter. Bonne journée. Merci beaucoup.
Merci Nagui. Merci la bande. Et à lundi.